marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La radiodiffusion française vous invite à écouter...
Rasputin est une fiction.
Il avait donné des conseils, il a choisi les ministres. Si les ministres nommés n'exécutaient pas ses ordres, et cet ministre était démissionné très vite, alors c'était quelque chose d'absolument apocalyptique. C'est quelque chose qui n'était pas dans la logique de l'histoire.
Le point de vue de Kerensky, le chef du gouvernement provisoire après la révolution de février 17. L'oracle, au regard doux et impénétrable et dont la voix pouvait tant impressionner, n'avait pas de pouvoir de guérisseur, mais une puissance de suggestion. Il est introduit au palais en 1906. Le couple impérial, très inquiet de la santé du tsarévitch hémophile, vit alors plus isolé qu'il ne devrait, mais il a la foi et il est prêt à accepter n'importe quelle monnaie spirituelle qu'on lui fera passer. Rasputin gagne donc en influence avec cependant des moments de repli, toujours des bornes. D'ailleurs, qui saurait dire à la fin du tsarisme où est vraiment le pouvoir en Russie? C'est le retournement de ceux-là même qui au départ l'avaient protégé et la cristallisation autour de son nom d'à peu près tous les adversaires de Nicolas II et d'Alexandra qui fait l'importance de Rasputin. L'hostilité populaire montait depuis longtemps et déborde maintenant avec les malheurs de la guerre. Et Rasputin est le prétexte qui permet aux élites du régime de marquer elles aussi leur distance. Il divise jusqu'à la famille Romanov, puisque deux de ses assassins en font partie. Le cas Rasputin est plus intéressant encore que sa personne. Il scelle l'effondrement d'un système. Il est d'ailleurs passionnant de voir que des crises d'autres régimes politiques d'apparence plus moderne passent présentement par les mêmes symptômes qu'on pense à la Corée du Sud d'aujourd'hui. Et puis, le robuste Grigori est un inusable modèle pour toutes les fictions. Il porte à merveille les costumes que ses ennemis innombrables lui ont fait endosser et même ceux que ses hagiographes, beaucoup plus rares, lui ont confectionnés. Mieux, c'est un miroir. Les images qui sont données de lui ressemblent bien à ce que nous nous attendons que la Russie soit et demeure.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Alexandre Soumpf, bonjour.
Bonjour.
Auteur, enfin un bon livre en français depuis celui d'Yves Ternon, d'un Rasputin chez Perrin. Vous êtes historien de la Russie, vous êtes historien des images, du cinéma aussi, on en parlera beaucoup. Vous vous êtes pris au jeu, vous êtes allé beaucoup dans les archives, vous, parce que on entend tellement de choses sur Rasputin. Par exemple, Rostropovitch, en 95, a acheté des dossiers secrets de Rasputin qui ont donné lieu à une biographie, une des rares hagiographies d'ailleurs, de Rasputin. Et puis Fedorovski nous explique que les archives russes vont permettre de revisiter le personnage.
Oui, ces archives, elles sont fascinantes. Elles ont fasciné quand elles étaient secrètes. Elles ont encore plus fasciné quand on les a ouvertes. Il y a beaucoup de choses sur Rasputin dans les archives, mais il y a aussi beaucoup de choses qui n'y sont pas. Et quand il n'y a pas ce qu'on veut dans les archives, le meilleur moyen, c'est de rêver, les trouver sans doute. Alors je ne sais pas si mon collègue Radzinski a véritablement hérité du prestigieux violoncelliste ce dossier. Toujours est-il qu'il cite à longueur de livres ces documents, qu'ils sont passionnants et qu'ils me passionnent moi parce qu'ils participent du mythe construit autour de Rasputin.
Et puis il faudrait qu'on les montre en entier.
C'est ça.
Et pas seulement ceux qui font exploser des secrets. Bon, votre projet, ce n'est pas de faire une biographie de trop. On va commencer par un détour, pour essayer de bien l'expliquer. Un détour asiatique, il était un peu asiatique, Rasputin. La Corée du Sud. Eh oui, on sait que la présidente sud-coréenne, Park Geun-hye, a été jugée trop proche de Madame Choi, qu'on a surnommée la Rasputin de Corée. Soit donc la présidente, Park Geun-hye, qui est elle-même, vous suivez, la fille d'un dictateur, et Madame Choi, qui est elle-même la fille d'un chaman.
Ça a commencé par le problème de la garde d'un petit chien appartenant au gigolo qui, paraît-il, accordait ses faveurs à la confidente de la présidente de Corée du Sud. Et puis, il y a eu des livraisons de Viagra à la Maison Bleue, donc ça c'est assez cocasse, donc aux frais des contribuables, a-t-on dit. Et puis il y a eu ces histoires, encore une fois, de rituels chamaniques.
Pat Guenet a perdu sa mère en 75-76.
Assassiné.
Son père ensuite est mort en 79.
Assassiné aussi.
Assassiné également par un Sud-Coréen, le directeur des services de renseignement sud-coréens. À partir de ce moment-là, un conseiller s'est présenté, qui se présentait comme un chaman, permettant de...
Donc un chaman dans la tradition coréenne, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire de l'animisme coréen.
Donc en communication avec les esprits.
Exactement, et
donc
notamment
avec, les morts.
Avec la mère de Pak Geun-hye. À partir de ce moment-là, M. Choi a eu une influence sur Pak Geun-hye, qui s'est ensuite transféré à sa fille, donc Choi Soon-sil.
Donc chaman de père en fille.
Exactement, quoi. Au cœur du scandale. Ce qui est reproché vraiment au-delà du caractère extravagant, c'est en réalité que Pak Geun-hye était influencée par Choi Soon-sil, qu'elle a transmis à Choi Soon-sil des documents confidentiels, des briefings présidentiels, ses discours, et que Choi Soon-sil, par exemple, réécrivait les discours de la présidente. Donc concrètement, la présidente allait le matin au briefing présidentiel, se mettait d'accord avec ses conseillers, et puis une demi-heure après, rappelait ses conseillers en leur disant « finalement, j'ai envie de changer quelque chose ». En réalité, parce que Choi Soon-sil m'a conseillé de le faire. Choi Soon-sil, par exemple, choisissait également les tenues de la présidente.
L'émission de Christine Krent sur France Culture, 100 ans après, le même imbroglio que pour Rasputin.
Tout à fait, avec ce mélange assez singulier de pouvoir occulte, de relations familiales, qui est très important, et aussi, évidemment, des rotomanies, hein, avec toutes les accusations éventuelles de lesbianisme qui ont fusé dans la presse, plus ou moins avérées, et après tout, peu importe. Et ceci autour de titres de pouvoir, de personnages qui sont eux-mêmes énigmatiques, dont on a du mal à percevoir quelle est leur personnalité dans l'histoire. On a cette présidente coréenne qui est elle-même une héritière, hein, et qui donc n'a pas tout à fait la légitimité de son pouvoir, ou ne l'a qu'en partie. Et de même Nicolas II, qui était considéré comme le plus faible des tsars, qui n'avait rien à voir avec son père, sans parler de ses augustes aïeux comme Nicolas Ier, dont il portait hélas le prénom.
C'était pas un détour, c'est une explication de votre type de recherche. Mais restons en Asie, puisque c'est en Sibérie que Rasputin fait ses premiers pas. Vous vous intéressez beaucoup aux images. C'est dommage que Perrin n'ait pas publié un cahier d'images, mais enfin, elles sont presque toutes connues, sauf celles de Sibérie, où il est là, avec papa, avec sa femme, en blouse, et derrière lui parfois une carriole.
Oui, donc cette carriole faisait partie des richesses de la famille Rasputin. Elle leur permettait de servir de transporteur dans le village, entre le village et les bourgs environnants, et lui donnait déjà ce caractère de mobilité, mobilité géographique, mobilité sociale aussi, qui est assez frappant tout au long de la vie de ce phénomène.
Bon, alors, on a dit qu'il savait ni lire ni écrire, bon, sa graphie est un peu hésitante, mais un moujik intelligent, c'est plus intelligent qu'un aristocrate intelligent.
Peut-être que c'est plus rusé, mais en tout cas, Rasputin, quelles qu'aient été ses intentions initiales, son programme, en avait-il même un, a su tirer parti de ce qu'on voulait de lui, de ce qu'on attendait de lui, des personnages qu'on a essayé de lui faire construire, et il a fini par prendre son autonomie et diriger sa propre destinée, jusqu'à sa fin tragique, certes, mais en tout cas dans la...
Mais restons pas sur les 11 dernières années de sa vie où il est introduit à Saint-Pétersbourg, mais sur les 40 premières. Même quand il en est question, les témoignages des uns et des autres, ça c'est très caractéristique de tout ce qui tourne autour de Rasputin, ne donnent jamais le même point de vue, ne se présentent jamais de la même manière. Ici c'est une bonne vieille dramatique radio, René Villemay, 1960, c'est un dialogue entre deux prêtres qui ne sont pas d'accord quand il s'agit de Grigori.
Je vous assure, ce brave moujik a des dons extraordinaires et que j'ai bien rarement rencontré au cours de mon long sacerdoce. Outre ses facultés de voyant, il lit parfois en vous comme au travers d'une vitre. Son intelligence débrouille en un tournement des problèmes embarrassants que nos étudiants les plus érudits ont peine à résoudre.
Un villageois inculte en saurait plus que nous ? Je me refuse à le croire.
La science ne remplace pas toujours l'instinct. Je m'y connais en homme. D'abord, le curieux personnage dont je vous parle n'est pas un ignorant, loin de là. Il a beaucoup appris, beaucoup observé, durant ses marches solitaires à travers le pays sibérien, car c'est un errant. Il a suivi le précepte du Christ. Pour me suivre, il faut quitter son père et sa famille.
Il y a trop d'errants parmi les plaines de Russie. Trop de pèlerins suspects. Trop de vagabonds prétendus sacrés qui se prennent pour des apôtres parce qu'ils sont hirsutes, malpropres, et profèrent n'importe quelle folie sur un toit halluciné devant des compagnards abétis qui les admirent de confiance. On les héberge, on leur baise les mains, on leur amène des enfants scrofuleux qu'ils ont l'impudence de bénir, et de quel droit, je vous le demande. Et ils s'éloignent, suivis d'une vénération craintive, en portant leur odeur de soin que l'on confond sottement avec l'odeur de sainteté.
Il y a un livre fascinant, Les récits d'un pèlerin russe, où on voit un type qui marche en répétant toujours la même prière, la prière du cœur, et qui se livre aux circonstances de chaque jour, qui évidemment sont divines. C'est quelqu'un comme ça, Rasputin, à certains moments de sa vie en Sibérie ?
Oui, il a disparu pendant 3 années, durant lesquelles, dit-il dans son autobiographie, qu'il n'a pas écrite lui-même, mais peu importe, il a effectivement parcouru toutes les régions de Russie, notamment de Sibérie. Et le fait d'ailleurs qu'il vienne de Sibérie est assez fascinant pour les Russes occidentaux, parce que c'est quand même un ailleurs, c'est le Far East de la Russie. Le fait qu'il soit profondément croyant, qu'il soit un paysan qu'il incarne en quelque sorte la vraie foi populaire joue totalement en sa faveur, et il avait un don d'observation, il avait un don pas de divination mais effectivement ni de prescience mais d'analyse des sentiments, des signes physiques, des mots que pouvaient prononcer les uns et les autres. Et même si lui ne savait pas prononcer les phrases qu'il fallait, il savait un peu comme la Sibylle prononcer des phrases suffisamment énigmatiques pour qu'on cherche à y voir du sens.
Un pèlerin expérimenté, c'est ça le titre du livre que vous évoquez. C'est plus intelligent qu'un aristocrate sédentaire. Qu'est-ce que c'est un stradnik, c'est ça ?
Oui, un stradnik, c'est un errant qui va de village en village et qui vit de la charité des autres chrétiens, et puis qui, sans prétendre être un prophète, il ne porte pas la bonne parole, apporte tout de même une lueur de foi dans les villages les plus reculés. Et il est, si vous voulez, ce stradnik, un peu le contrepoint d'une autre grande figure de la religion orthodoxe russe, qu'est le Starets, dont on a un grand exemple dans les frères Karamazov, hein, le Starets Zosime, qui lui, au contraire, fait venir à lui les pèlerins. Et ce qui est assez étonnant dans le personnage de Rasputin, c'est qu'il est à la fois ce stradnik, celui qui parcourt l'espace, qui devient la Russie à force de la parcourir, et en même temps celui qui attire à lui toute la Russie, qui vient écouter ce qu'il a à dire sur la situation.
Mais l'un des deux prêtres qui se méfie dans le dialogue qu'on a entendu de Rasputin a tout de même raison, parce que l'errant, il est un chrétien sans église. En plus, en Sibérie, il y a une collection de sectes, de groupes comme celui des vieux croyants qui existent depuis l'époque de Pierre le Grand, qui cohabitent les uns avec les autres, et on imagine que Rasputin féconde comme ça, chaque groupe va de l'un à l'autre, ou est fécondé par chaque groupe.
Eh bien, il y a effectivement une double interprétation au sein des plus haut rang du clergé et orthodoxe. Certains préfèrent voir en Rasputin cette incarnation d'un renouveau de la foi populaire, et vont essayer de se servir de lui à partir de 1903 en le faisant rentrer dans la grande académie de théologie de Saint-Pétersbourg pour incarner ce nouveau souffle venu des profondeurs du pays. Et d'autres, au contraire, l'accusent très rapidement, et notamment en Sibérie, de faire partie d'une de ces sectes qu'on appelle les flagellants, les Christi, qui avait la particularité, disait-on, de se livrer à un certain nombre d'orgies, notamment sexuelles, et ça a suivi aussi Rasputin toute sa vie.
Oui, mais enfin, le côté érotomane, si nos auditeurs veulent patienter un moment, oui, on l'abordera plus tard, parce que j'aimerais mieux que vous nous expliquiez comment il a été introduit en 1903 à Saint-Pétersbourg par des milieux ecclésiastiques.
Il a réussi, à force de fréquenter les différents lieux de pèlerinage et les différents ermitages qui parsèment ce territoire de la Russie, où d'ailleurs tous ces lieux religieux ont une importance historique fondamentale, par exemple à l'époque mongole, dans la résistance aux envahisseurs aussi, donc c'est le lieu à la fois de la religion mais aussi de la patrie russe, il a réussi à trouver des parrains, des mécènes qui l'ont muni de lettres de recommandation et qui, de fil en aiguille, l'ont amené jusqu'au sein des saints auprès donc de ces grands théologiens de l'époque, et notamment de Jean de Kronstadt, qui était considéré comme le père spirituel de l'Église.
Il appartient quand même à la tendance, parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans l'Église orthodoxe, on ne le sait plus, à cette époque-là. Il appartient
plutôt à la tendance conservatrice de l'Église orthodoxe, Rasputin, par ses relations.
Disons qu'il arrive dans un milieu, effectivement, conservateur, mais où il y a un débat, notamment autour de la place de l'Église dans la société et le rapport à la communauté juive. Son meilleur ami et ennemi, Iliodore, dont on parlera peut-être tout à l'heure, était un très virulent antisémite. Jean de Kronstadt, au contraire, était plutôt favorable à un certain œcuménisme. Donc, si vous voulez, il y avait aussi un débat au sein de l'Église. Et quand il y a débat, quand il y a interstice, ça permet à des personnages comme Rasputin de se glisser.
Iliodore, nos auditeurs peuvent être rassurés, on en parlera parce que c'est grâce à lui qu'on sait qu'il est érotomane et comment ce qui a dû inspirer peut-être cette chanson sur laquelle chacun a dansé. Je dis ça notamment pour Valérie Aistaray, notre réalisatrice. Et comme c'est fabriqué pour faire danser, évidemment l'aspect sexuel va l'emporter.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
100 ans après la mort de Rasputin, Alexandre Soumpf, qui consacre aux images de Rasputin un beau livre aux éditions Perrin. Alors, il n'y a pas besoin de citer le groupe, si?
Non, je pense que tout le monde l'aura reconnu.
Oui, mais si on veut chercher des références plus rares, il n'y a pas de cahier d'images, mais il y a une très belle bibliographie. Et on trouve plein de groupes, plein de chanteurs qui se sont inspirés de Rasputin.
Oui, certains.
Ah, hard, heavy metal, tout.
Oui, c'est vrai. Il a fait florès dans la culture populaire d'après la Seconde Guerre mondiale.
Mais revenons aux images.
Oui.
Alors, les images, comment le voit-on sur les photographies, relativement nombreuses, mais enfin, il manque évidemment les scènes peut-être les plus intéressantes avec le tsar et la tsarine au palais impérial. Comment est-il représenté à partir du moment où il s'insinue, non sans difficulté, non sans repli aussi à certains moments, à Saint-Pétersbourg, à partir de 1903-1906?
Là aussi, il y a deux séries de photos particulièrement significatives. Il y a une première série où il est dans son rôle de Stranik Stariets, d'homme religieux. Donc on le voit en soutane, très bien coiffé, assez peu hirsute, sage, à la limite surprenant pour Raspoutine. Et puis il y a un Raspoutine qui surgit petit à petit, c'est le favori d'une certaine partie des dames de la bonne société, assez croyante, mais en même temps très superstitieuse. C'est ce Raspoutine qu'on voit notamment dans deux fameuses photos datées de 1913, début 1914, dans son salon, dans le premier logement qu'il a loué lui-même, dit-on, avec l'argent de la tsarine. Et là, on assiste à l'une de ces réunions de l'après-midi, l'un de ces thés, où il reçoit à la fois donc ces de très jolies jeunes femmes, des femmes d'un âge un peu plus avancé, mais qui espèrent quand même éventuellement avoir quelques faveurs, et puis un certain nombre d'aventuriers autour de Raspoutine, plus ou moins liés à ces femmes-là, et qui essayent de tirer profit de l'aura du saint homme.
Quand son influence grandit, vous dites qu'elle a toujours été circonscrite en même temps qu'elle est certaine. Certains de ses soutiens deviennent des adversaires, à commencer, allez, on en vient à lui, oui, par Héliodore, et c'est Héliodore qui va diffuser les lettres de la tsarine où il est question de Raspoutine. Il y a des choses, mais ces lettres sont peut-être toutes exactes, qu'une impératrice ne devrait pas écrire.
Oh, il n'y a rien de très méchant dans ces lettres. En tout cas, on est très loin des confidences d'un président de la République. Ce qui est sûr, c'est que Héliodore était un religieux très ambitieux et qu'il a agi par jalousie quand il a constaté que, loin d'avoir pu manipuler son ami, c'est son ami qui avait pris une place absolument inégalable et incompréhensible à l'époque, puisqu'on ne savait pas, on ne connaissait pas la maladie de Tsarevitch, auprès de la famille impériale. Et donc, quand il a compris que ce n'était pas lui qui allait aider son ami, mais son ami qui intercédait en sa faveur, il s'est complètement retourné. Il est devenu le principal adversaire de Raspoutine et celui qui a dénoncé notamment le fait qu'il était un orgiaque érotomane.
Alors, tous en les s'appuyant détails sur ses... et toutes les interrogations, on les trouve dans votre livre.
Tout à fait.
Mais on va s'intéresser ici davantage à la dimension géopolitique, bien sûr, mm-hmm. Alexandre Soumpf. On voit quand même que beaucoup de diplomates, par exemple l'ambassadeur français paléologue, moins peut-être l'ambassadeur britannique, se demandent d'abord où est le pouvoir en Russie et si Raspoutine n'en exerce pas une part à cause de son influence sur le couple impérial et notamment sur l'impératrice. Un petit peu comme les diplomates en poste à Séoul aujourd'hui doivent s'interroger et envoyer des dépêches à leur chancellerie.
Nicolas II était un tsar assez isolé, qui n'avait pas véritablement de groupe autour de lui, de groupe de travail. Il avait un pouvoir relativement faible, bien sûr. On était encore dans un format autocratique, mais on va dire qu'on est déjà dans une époque en Russie où l'administration, où le gouvernement a un rôle aussi fort, et ne parlons pas de l'armée, hein, c'est plutôt l'armée qui a voulu la guerre que le tsar lui-même.
Et certainement pas Raspoutine, d'ailleurs.
Raspoutine n'a pas voulu la guerre. Raspoutine a tenté de donner beaucoup de conseils directement ou par l'intermédiaire de la tsarine. Ils ont été relativement peu écoutés, sauf en matière ecclésiastique, ce qui est finalement assez logique. Et on doit distinguer aussi deux périodes. Il y a la période d'avant 1915, c'est-à-dire avant la date à laquelle, fin août, le tsar décide de prendre personnellement la tête des armées et donc va au grand QG, au grand quartier général à Moguilev et donc n'est plus présent près de la capitale. Et cette période donc de guerre dans laquelle la tsarine le met au courant de tout ce qui se passe et subit quotidiennement l'influence de Raspoutine. Et on a une source extraordinaire qui sont les lettres de la tsarine au tsar, qui ne peuvent être écrites que quand il y a de la distance, qui ont en quelque sorte ont conduit les contemporains de l'époque et conduisent aussi encore aujourd'hui les historiens à surévaluer cette présence de Raspoutine parce que les lettres sont pleines de Raspoutine. Mais bon, on a aussi très souvent le tsar qui dit « n'en parle pas à notre ami, je l'ai décidé ainsi, explique-lui », et donc qui défend son précaré.
Mais vous expliquez, vous, que l'hostilité populaire monte, évidemment, à mesure que la guerre devient plus difficile et que pour les élites, et même une partie de la famille Romanov, Raspoutine, c'est un prétexte pour se dresser contre le couple impérial, et d'ailleurs, parmi les assassins du mois de décembre 1916, il y a deux membres de la famille impériale, le grand-duc Dimitri soi-même, le prince Youssoupov, qui est associé par alliance à la famille Romanov. Et on se souvient peut-être du dernier témoignage de Youssoupov, c'était en 1967, en prélude à un film de Robert Hossein, et Alain Decaux l'interrogeait ainsi, répétant sans arrêt « Prince, prince !»«
Prince Félix Youssoupov, Vous avez tué Rasputin. Oui. Prince, au soir de votre vie, lorsque vous repensez à Rasputin, quel sentiment éprouvez-vous à son égard?
Le dégoût.
Prince, dans des circonstances identiques, si vous aviez à prendre une décision identique, referiez-vous ce que vous avez fait?
Oui.
Le prince Youssoupov, dites-vous, bah, comme le troisième assassin, un député d'extrême droite, Porishkevitch, il a eu une longue vie, député d'extrême droite, une vie brève, ils ont été les seuls à témoigner. Donc on est obligé de prendre pour monnaie exacte ce qu'ils ont bien voulu raconter. Le grand-duc Dimitri, sauf peut-être sur l'oreiller avec Chanel, plus tard, n'a jamais raconté ce qui s'était passé.
Il n'a jamais raconté, c'était le seul qui avait la capacité, par son expérience militaire, d'abattre un homme en pleine nuit sur un fond de neige à 40 mètres. Mais c'était le cousin favori du tsar, et le tsar ne s'y est pas trompé, hein, il a à peine relégué de quelques centaines de kilomètres Youssoupov, et il a condamné au front perse son propre cousin, donc Nicolas II savait qui avait tué Rasputin, c'est celui qui n'a jamais dit qu'il l'avait tué.
Alors, ils étaient très peu, le couple impérial en était, à suivre le convoi funèbre, qu'on voit ici reconstitué dans un film de Klimov, L'agonie.
Дыхание ножи, бесконечная, надгробное рыдание, горящий песнь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Le film consacré à Youssoupov, c'est le premier, celui de Klimov, à montrer l'enterrement. Et Klimov, c'est quelqu'un que vous aimez bien, parce que il dit des choses qu'on n'attend pas de lui. C'est un peu comme votre livre, quoi.
Klimov, donc, qui a réalisé un très beau film qui s'appelle « Va et regarde » après, et qui a eu beaucoup de mal à sortir ce film à la toute fin de l'époque soviétique, parce que effectivement, il a brisé beaucoup de tabous. D'abord, il a montré Rasputin comme un être complexe, comme un être qui était le produit de son temps, comme un être qui avait des visions et qui en même temps était victime de ses visions. Il a montré le tsar Klimov comme un être normal, absolument pas comme un ennemi du peuple. Il a montré la tsarine comme ce qu'elle était probablement, une douce dingue mystique. Et pour revenir à Rasputin, ce qui est fascinant dans le film de Klimov, c'est sa manière dont il a d'incarner véritablement la Russie de l'époque dans son caractère, non pas le cliché de l'âme slave qu'on a nous ici, mais dans ce qui est la profondeur véritable d'une foi. Et ça, c'était tout à fait contraire à ce qu'on
attendait de lui.
On attendait de lui, voilà.
Merci Alexandre Soumpf. Dans toutes les bonnes librairies, Rasputin, chez Perrin, que vous avez signé. Ilinka Negulesco a préparé cette émission, Valérie Aestaraï à la réalisation, Henri Bérec à la technique.